Soyez les bienvenus sur BFM Radio. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé. Le talk show radio sur BFM, la radio des deux rives.
Chut, on écoute la télé avec Réal Chocolat, votre artisan chocolatier. Chocolat sous toutes ses formes et pour tous les goûts. Guimauve, nougat, la fameuse pâte de fruits et les nombreux coffrets gourmands à découvrir dans votre boutique à Beauvais, près d'Agen. Zone La Motte Maniac et sur réal-chocolat.com. Réal Chocolat fait naître la gourmandise.
Chut, on écoute la télé avec les confitures cuites au chaudron par Lucien Georgelin. Vos points de vente en Lot-et-Garonne sur lucien-georgelin.com.
Et merci de nous rejoindre pour Chut, on écoute la télé, l'hebdo sur VFM Radio, des équipes de films, des comédiens, des chanteurs et bien d'autres pour cette heure que l'on démarre ensemble maintenant. Alors c'est parti pour le sommaire.
Chut, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et au sommaire eh bien, de cette nouvelle émission de ce lundi, eh bien, je vous propose pour commencer eh bien, de retrouver Zaz d'ici quelques instants. La chanteuse viendra nous parler évidemment de l'effet miroir, son dernier album, mais de son succès international également, puisque Zaz va tourner dans le monde entier tout au long de cet automne. On va en parler avec elle d'ici quelques instants et elle nous fera découvrir des extraits évidemment de son album. Et puis on va eh bien, parler de l'après-prime de Plus belle la vie. On aura la chance de recevoir tout à l'heure David Marshall qui incarne Clément Baumel. Nous avons Alexandre Fabre alias Frémont, Marie Henry alias Léa Nebout et puis Stéphane Hénon alias Bauer. Ils seront tous les quatre avec nous pour débriefer sur le Prime Catastrophe que vous avez pu voir mardi dernier sur France 3 à l'occasion de la diffusion de la grande soirée demain soir, puisque les 5 épisodes de Plus belle la vie seront diffusés à la suite cette semaine à cause des championnats du monde d'athlétisme. Nous aurons le plaisir de recevoir également Eden Ducourant qui sera avec nous. L'héroïne de la série Pour Sarah sera notre invitée. Nous parlerons également de Filmmakers, c'est un documentaire de Julie Gayet qui sera diffusé demain soir sur Ciné+. Julie Gayet sera notre invitée exceptionnelle pour en parler de la condition eh bien, des femmes réalisatrices dans le monde. On débattra avec elle bien sûr de ce sujet. Et en fin d'émission, coup de cœur ciné exceptionnel ce lundi avec Leïla Bekti et Géraldine Nakache qui seront avec nous pour la sortie de leur très beau film J'irai où tu iras qui sort mercredi dans les salles. Vous l'avez compris, c'est chargé. Une belle émission qui vous attend. Alors c'est parti pour une heure de folie. On va tout de suite démarrer avec les audiences de la semaine dernière.
Les tops et flops d'audience.
Alors juste avant d'accueillir Zaz, qu'est-ce qu'on peut dire des audiences de la semaine dernière? Et ben on va commencer par lundi dernier, La Part du Soupçon sur TF1 qui a réalisé une très très belle audience avec 5 103 000 téléspectateurs et 22,5% de part de marché. L'Amour est dans le Pré du coup est deuxième avec 16,5% de part de marché, 3 752 000 téléspectateurs, un score toutefois en baisse par rapport à la saison dernière. Nous avons également la série The B sur France 2 avec seulement 10,4% de part de marché et 2 382 000 téléspectateurs, c'est pas folichon. Mardi, eh bien, c'est le prime de Plus belle la vie qui domine la soirée avec 16,5% de part de marché et 3 656 000 fidèles qui étaient au rendez-vous. Swat sur TF1 arrive deuxième avec 15,4% de part de marché et 3 331 000 téléspectateurs. Cash Investigation sur France 2 fait un petit score avec même pas 2 millions de téléspectateurs et 10,2% de part de marché. Quant à mercredi, c'est évidemment la série Good Doctor qui domine la soirée et c'est un très bon début également pour la série Pour Sarah sur TF1 qui eh bien, a culminé à quasiment 5 millions de téléspectateurs. Bravo à la série. Voilà ce qu'on pouvait dire des audiences de la semaine dernière. On peut aussi noter eh bien record d'audience pour l'émission de Faustine Bollaert également en début d'après-midi puisque lundi dernier eh bien, l'émission a battu son record d'audience.
L'invité d'honneur de la semaine.
Allez, notre invité d'honneur aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé, eh bien, c'est Zaz, une chanteuse qu'on aime beaucoup dans notre émission et qui revient pour la deuxième fois. Bonjour Zaz.
Coucou.
Merci d'être avec nous. Quatrième album studio en 2018, c'était L'effet miroir et ça continue, on a des titres qui arrivent encore. Une tournée internationale, mais où tu vas t'arrêter? C'est incroyable tout ce qui t'arrive.
Ouais, c'est assez fou, ouais. Ouais, et puis le succès à l'international, c'est complètement... Et puis ça continue en fait, c'est comme une relation en fait, ça devient de plus en plus fort, de plus en plus enfin voilà, puis à chaque fois qu'on revient on se connaît déjà, donc on est content de se retrouver, c'est chouette.
Alors ce qui est assez incroyable justement, c'est qu'il y a très peu de chanteurs qui arrivent et des chanteuses ou chanteurs français d'ailleurs qui arrivent à percer comme ça à l'international. Comment tu expliques ça, que toi ça bah c'est parti?
Moi je l'explique pas vraiment hein. Je sais pas, il y a pas de recette sinon tout le monde l'appliquerait. J'imagine que c'est mon énergie, ma voix et les valeurs aussi que j'exprime dans les chansons. Il y a beaucoup de gens qui font la traduction. Il y a quelque chose qui leur rappelle aussi la vieille chanson française. Et en même temps, c'est moderne. Donc, il y a un alliage, ça se dit, de tout un tas de choses. Je sais pas trop.
Quels sont les pays là que t'as traversé là pour le coup avec avec tous tes albums?
Oh waouh, putain, plein, à Serbie.
Quelques-uns. Si t'en marquais peut-être plus que d'autres.
L'Amérique latine, la Serbie, la Turquie, la Pologne, l'Allemagne, République tchèque, les États-Unis, le Japon, le Canada. Je sais pas, il y en a plein. Bulgarie, Croatie, l'Angleterre, plein. Plein, plein.
Quand tu arrives au Japon la première fois, que tu viens chanter, que tu vois les gens reprendre en cœur tes chansons, ouais. C'est pas forcément palpable tant que tu y as pas été. Mais là, tu te dis quoi sur scène? Parce que là, tu dois prendre une décharge émotionnelle quand même.
Quand c'est la première fois où tu arrives dans un pays, bon, maintenant, il y a encore des pays où on n'a pas été. Par exemple, la Hollande, on n'y avait jamais été, on y est allé cette année. Et là, on a refait un festival, il y avait plus de 15 000 personnes. Enfin, c'était où? C'était fou. Et là, t'as tout le monde qui chante par cœur, alors que t'as jamais foutu pareil. Bulgarie, ça commence à faire maintenant. C'était il y a 5 ans, 6 ans, je sais plus. Bon, bref. On arrive, il y avait une aréna de 8 000 personnes qui nous attendaient, qui chantaient tout par cœur. Donc, en fait, ouais, il y a un côté, assez fascinant, mais je pense qu'ils chantent en phonétique aussi. Puis, ils apprennent les paroles. Il y a beaucoup de gens qui font la traduction des paroles aussi. Il y a beaucoup de profs de français qui font apprendre le français avec les chansons, parce que c'est vrai que c'est plus facile d'apprendre une langue avec des chansons. Bah non, c'est surtout il y a un côté surréaliste, ouais, il y a un côté c'est beaucoup d'amour, c'est vraiment, ils sont hyper heureux. Bah c'est comme un groupe étranger qui vient en France, en fait tu sais pas quand est-ce qu'ils vont revenir, donc tu profites d'être là. Tu vois, c'est
en tout cas, nous, on veut le garder pour nous aussi. Hein. Je te le dis tout de suite.
J'adore chanter, j'adore jouer en France. Hein. C'est pas, y a pas de jalousie à avoir. Enfin, de toute façon, chaque pays a quelque chose de particulier. Et la France, c'est mon pays. Donc, mais partout, même, on me demande toujours un pays qui est mieux qu'un autre, où le public est plus fou. Tu peux pas comparer.
C'est différent, en fait.
En fait, c'est différent parce que déjà les cultures sont différentes. C'est sûr que tu vas en Amérique latine, là, ça chante, ça danse, terrible. Au Japon, c'est plus introverti, mais n'empêche qu'à un moment, je les fais se lever et puis ils sont comme des gosses. C'est drôle.
Alors, t'as été de passage en Charente cet été, justement, la fête du cognac au mois de juillet. Ouais. Je crois que t'as un historique important avec la Charente, la Nouvelle-Aquitaine, hein, ouais. Globalement.
Ouais. Bah ouais, moi j'habitais 14 ans en région Aquitaine, donc Bordeaux, Libourne, j'habitais à Guîtres. Enfin, j'ai commencé quand mes parents sont séparés, après on habitait à Guîtres. Et après oui, j'étais dans un groupe qui s'appelle Don Diego, qui était sur Angoulême, enfin qui était sur Angoulême, et donc du coup on faisait aussi on avait monté un quartet de jazz et voilà, on faisait tous les environs.
On va parler de comment tout a commencé pour toi, là, pour le coup, faire un petit retour en arrière dans un instant. Mais d'abord, l'effet miroir, on va découvrir tout de suite un extrait. Allez, quel extrait de l'album t'as envie de nous faire découvrir maintenant?
Un truc...
Tu choisis, celui que tu veux.
On peut mettre La Pony.
Eh ben, on peut mettre La Pony, bah ouais. Oui, tiens, on s'écoute tout de suite. C'est Zaz qui est notre invité dans Chut, on écoute la télé aujourd'hui. C'est parti.
Le pilote, l'avion, les ailes et le ciel. Je sais pas ce qui m'attend, je suis excitée comme lors de mon premier grand voyage. Une émotion qui depuis m'avait quitté. Je sens comme un fil invisible qui me relie à quelque chose dont j'ignore la portée, qui n'a ni commencement ni âge, mais bien au-dessus des nuages. Observant mes pensées qui s'emballent, je me connais et je me calme. Ce n'est que le bon moment, c'est maintenant. Je suis prête. La lune bleue de sang comme témoin. La lune bleue de sang comme témoin. La lune bleue de sang comme témoin. Dans l'œil bleu. Je pose mes pieds à terre et déjà je m'enivre. Je respire à plein poumon le nectar glacé. Je reconnais les fragrances de l'esprit qui me grisent. couleur pastel arborescente, pilier de lumière cristallin. Élan sauvage, reine, roi des forêts, l'offrande mystique d'une parélie, diamant brûlant comme un symbole sami. Notre ange Nicolas, pur comme la neige. Cœur d'enfant, artiste itinérant, inspiré, inspirant, nomade dans l'âme, une fleur chantante. J'expire le souffle du passé. Je respire à nouveau.
Voilà, on revient de voyage en Laponie avec Zaz. On va revenir dans un instant. 3 minutes de pause et tu restes avec nous?
Oui.
Et ben, allez, à tout de suite avec Zaz dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. L'invité d'honneur de la semaine.
Allez, de retour dans Chut, on écoute la télé avec Zaz, qui est notre invité d'honneur aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Alors, on parlait justement de tes liens avec la Nouvelle-Aquitaine il y a quelques instants. Comment tout a démarré? Est-ce que tu te souviens où a été le déclic? À quel moment tout est parti? Parce que c'est parti très vite avec le titre Je veux. Comment on vit cette célébrité soudaine en plus?
C'est pas parti si vite que ça. Enfin, en vrai, si, c'est parti vite, mais par rapport à la quand on a fait la chanson, ça a pris quand même 2 ans, quoi. J'avais décidé quand j'étais petite que je serais chanteuse, que je serais connue et que j'allais changer le monde grâce à ma notoriété. Donc c'était déjà très clair dès le début. Et mais par contre, j'ai jamais rien fait pour être connue. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, le plus important, c'était d'apprendre et d'expérimenter. Et dès que je m'ennuyais, en fait, je quittais et j'allais. Et les gens me disaient, mais t'es folle. Par exemple, même quand j'ai eu mon intermittence, au bout de 2 ans, j'avais l'impression que j'avais mangé tout ce que j'avais mangé dans l'orchestre et je me barrais, on me disait mais comment tu vas faire tu vas perdre ton intermittent. J'ai dit, mais je m'en fous, je m'ennuie et donc je me dis je trouverai autre chose et puis voilà. Puis j'avais demandé à l'univers, j'avais dit je voudrais un groupe de composition puisque j'en ai marre de faire des reprises et c'est là où j'avais rencontré Don Diego, donc les Charentais. Et puis après j'ai pas arrêté et puis après je suis montée à Paris, on m'a dit mais Paris, ton rêve parisien, tu vas vous avez... et je me suis dit tant pis. Moi, j'étais excitée par l'énergie de la ville et je trouvais que ça me ressemblait bien, j'avais envie de connaître, quoi. Donc c'était pas facile parce que je connaissais personne. J'étais toute seule dans une petite chambre de bonne. Mais il y a eu tout un tas de choses qui faisaient que à chaque fois, tu vois, il y avait des ouvertures. Tu vois, c'est ma voisine du dessus à Bordeaux, sa mère habitait à Paris et dans le 16e. Donc j'avais une chambre de bonne à 250 euros dans le 16e où il y avait rien d'ailleurs. Mais bon, j'avais quand même une chambre de bonne et j'avais un endroit où crécher. Et puis je me suis servi de faire une formation à FDAS. Après j'ai commencé à travailler dans un cabaret piano bar où je dormais la journée et je travaillais la nuit. Et puis au bout d'un moment j'en ai ras le cul parce que d'ailleurs la chanson Je veux vient de là, parce que en fait je me respectais plus. Enfin il y avait tout un tas de choses qui faisaient qu'il fallait que je parte. Mais j'avais besoin de payer mon loyer et tout ça. Et puis après j'ai été jouer dans la rue parce que je trouvais plus de boulot. Puis là ça marchait bien entre guillemets, c'est-à-dire que c'était une nouvelle aventure. J'apprenais des choses, on rencontrait les peintres aussi. Enfin il y avait toute une atmosphère. Puis j'étais avec des amis qui venaient justement de La Rochelle, qui venaient de monter sur Paris, et on jouait donc dehors. Et puis je continuais à faire des choses. J'avais été en Russie aussi. Moi j'avais été invitée par l'Alliance française en Russie. J'étais partie juste avec un pianiste. On avait fait Extrême-Orient, Sibérie. On avait fait ça 15 jours en mois de décembre. Ça avait tellement cartonné qu'on a refait tout le mois d'avril. On avait pris le Transsibérien. Enfin on a été faire la prière au lac Baïkal avec un chaman. Enfin c'était complètement fou. Pareil.
La musique t'a permis de vivre des choses folles finalement.
Ouais. Puis c'est surtout que j'ai toujours osé y aller même si j'avais peur. Parce que souvent on a des propositions mais on se dit mais non, mais attends, tu connais. Enfin voilà. Donc j'avais la folie que voilà, enfin je me mettais pas en danger, enfin si je le sentais pas, j'y allais pas, mais quand je le sentais, même si j'avais peur, je le faisais parce que je me disais faut le faire, quoi. C'est une opportunité, c'est une expérience. Et même on m'a proposé des choses, de travailler avec des dans des quartiers défavorisés. Je devais faire preuve de chance, j'avais jamais fait ça, je suis pas du tout, enfin en plus à l'époque j'ai toujours pas confiance en moi dans certaines choses, mais à ce moment-là, j'avais vraiment pas confiance en moi, je l'ai quand même fait et on a fait un super truc. Donc même quand on me proposait des choses que je me sentais pas capable de le faire, je me disais bah si on te le propose, c'est que t'es capable. Enfin voilà, au pire des cas, tu le feras peut-être pas aussi bien que tu veux, mais t'apprendras. Et donc j'ai toujours fait comme ça. Après il y a eu tout un tas de choses qui sont arrivées. Je vais en arriver à ce moment-là. C'est que il y avait dans la rue, il y a une journaliste de Martine Valo, elle s'appelait, je me rappelle toujours son prénom. Pourtant j'oublie tout, mais et c'était une journaliste du Monde, du journal. Elle a fait un papier sur moi. Après j'ai rencontré Kéredine. J'ai répondu à 2 annonces sur internet. Une ça marchait pas. L'autre il m'a dit tu veux faire un album. Je dis ah, vas-y. Et on a écrit Je veux. J'ai commencé à écrire Les Passants. enfin il a écrit Je veux, et j'ai commencé à écrire les passants et tout ça, puis je me suis mise à travailler. Donc ça a duré ouais 2 ans, puis après il m'a présenté une maison de disques. J'avais 8 loyers de retard, ils m'ont fait un chèque de 10 000, j'étais contente, donc j'ai pu rembourser tous mes trucs, parce que là j'étais vraiment dans la merde. Et heureusement que le proprio c'était quelqu'un que je connaissais, donc il était sympa, mais bon, il commençait à... fallait payer là, ça commençait à être très très dur.
La confiance, alors maintenant justement, on demanderait par exemple d'être coach dans The Voice, non, est-ce que tu te sentirais capable?
C'est pas une question de confiance, ça pour le coup c'est une question d'avoir envie de le faire, c'est est-ce que ça me correspond, est-ce que c'est le moment, est-ce que j'ai envie, est-ce que... Voilà, je pense que c'est pas ma place en fait, en tout cas pour l'instant, je dis peut-être qu'un jour, je suis même pas sûre, parce que j'aime pas le truc de
juger.
Ouais, de juger, de après c'est, il y a des bons jugements, il y a des choses, mais après tout un truc d'être filmé, enfin je veux bien être coach pour quelqu'un, tu vois, je l'ai déjà fait parce que je capte tu vois le corps, ça j'aime bien, puis j'aime bien voir l'évolution et tout ça, et je trouve ça fascinant de voir quelqu'un évoluer, enfin c'est hyper beau, c'est stimulant, et puis tu voilà, ça rend, c'est, t'es fier pour lui, t'es fier pour toi, enfin voilà, c'est cool quoi, mais tout ce truc là d'être vu. Après c'est bien aussi de montrer des choses, mais en tout cas pas pour, non.
Bon, dernière petite question, 5e album, est-ce que tu as des rêves de collaboration sur un prochain album, par exemple avec des chanteurs français ou étrangers pour le coup?
Bah il y en a plein, j'aimerais bien j'avais demandé à travailler avec Véronique Sanson, j'aimerais bien travailler avec Biolay, bah continuer à travailler avec Michael Géraud, il y en a plein en fait, il y a plein de gens avec qui j'aimerais travailler.
Il y aura des rêves qui viendront, hein, c'est sûr, on n'en doute pas. Le 4e album, il est toujours dispo, ça s'appelle L'effet miroir. On va découvrir tout de suite un 2e extrait, lequel tu as envie là maintenant de nous faire découvrir.
On s'en remet.
Eh ben écoute, on va écouter On s'en remet, c'est justement le titre.
Ça s'appelle On s'en remet jamais vraiment.
Mais... c'est justement le titre qui tourne en boucle depuis cette rentrée sur notre radio. Donc voilà, merci à toi en tout cas d'avoir été avec nous. Et on s'en remet bien en tout cas de ce moment avec toi. Merci à toi, Zaz.
Merci beaucoup à vous. C'est une blessure sous la peau. Le froid glacé du couteau. Tout ce silence en écho. Je rêve de boire à tes mots. T'es pas si loin, pas si haut. Est-ce que la lumière reviendra? Est-ce qu'on retrouvera le sommeil? Y aura-t-il un nouveau soleil? Quelqu'un d'autre qui brillera? Est-ce que tu crois que l'on oublie? Combien de temps faut-il attendre? Combien de nuits pour désapprendre à se retourner dans son lit? Est-ce que tu crois qu'on s'en remet? On vit avec, on fait semblant. Peut-être qu'on s'en remet jamais. On s'en remet jamais vraiment. On s'en remet jamais vraiment. C'est une blessure sous la peau. Le froid glacé du couteau. Tout ce silence en écho. Je rêve de boire à tes mots. T'as mis la barre à sort. J'ai tant de toi sous la peau. Mais en feuille le démon, démon, démon. J'attends toujours ton écho. J'ai tout de toi dans la peau. On s'en met jamais. S'évapore, ou reste-t-il dans notre tête, comme ces étoiles qui brillent encore, mais qui sont bien loin de la fête. Les pas qu'on gravait dans la neige sont partis avec le printemps. Est-ce que nos souvenirs nous protègent? Sont-ils emportés par le temps?
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, cette semaine, on va vous parler, eh bien, d'un très beau documentaire qui sera diffusé demain soir sur Ciné+. Un documentaire à ne pas rater qui s'appelle Filmmakers. Et justement, Julie Gaillet, qui est la réalisatrice de ce documentaire avec Mathieu Busson. Julie est avec nous. Bonjour Julie.
Bonjour, merci de m'avoir proposé de venir.
Ça nous fait très plaisir en tout cas de vous recevoir, Julie. Un documentaire que moi j'ai eu la chance de voir au Festival du film d'Angoulême fin août dernier. Il est vrai que j'ai été, alors pas étonnée parce qu'on s'en doutait un petit peu, mais mais j'ai trouvé très intéressant, en tout cas, ce tour du monde des pays où aujourd'hui, il est vrai que les femmes réalisatrices sont loin d'être mises à l'honneur et sont même souvent le parent pauvre du cinéma. Et ça, c'est quand même un véritable souci.
C'est vrai que malheureusement encore, les femmes sont renvoyées à leurs conditions et que les réalisatrices ont plus de mal à exister ou à devenir ou à pouvoir exercer ce métier, le métier de réalisatrice. Ce que je trouvais intéressant en allant autour du monde, c'est de voir à quel point, bah, même si les cultures sont différentes, on retrouve plein d'a priori, de clichés, de choses et qui sont un peu toujours un peu les mêmes. Alors même si culturellement, c'est pas tout à fait pareil, je trouvais ça rigolo. Et puis aussi parce qu'en France, on a la chance d'avoir pas mal de réalisatrices. Alors on a l'impression qu'elles sont très nombreuses, mais en fait, elles sont pas 50-50, même si dans les écoles, c'est 50% de filles et 50% de garçons. Après, c'est 27% de réalisatrices. Mais partout ailleurs, c'est 10%, 3%, 2%. C'est-à-dire que nous, c'est vraiment le pays où il y en a le plus. C'est cocorico, quoi. C'est assez... Il y a un peu la Suède, il y a... Voilà, sinon, très vite, même aux États-Unis, c'est 10%. Mais dans les 10%, c'est que des petits films avec des petits budgets. Quand on parle des big blockbusters, elles sont 2, 3. Allez, vous allez pouvoir m'en citer peut-être Catherine Bigelow, enfin 2-3 noms comme ça, mais très très peu, elles sont 5-6, enfin, le pourcentage il tombe à 3% quoi, très très vite, et donc c'est ça qui est terrible.
Est-ce qu'il y a eu dans ce tour du monde des pays où les réalisatrices ne voulaient pas parler ou ont eu du mal à pouvoir s'exprimer sur cette condition dans leur pays, de peur de représailles par exemple?
Alors peut-être pas de représailles, mais c'est vrai que ça a été difficile en Afrique. Moi j'ai eu, elles sont souvent venues accompagner. Accompagnée par des frères, accompagnée par des oncles, enfin pas, ou des maris, peu seule. Je me suis rendu compte qu'en Amérique du Sud, c'est pas si facile. Pas des représailles, mais une appréhension et pas forcément une liberté de parole totale. Et c'est vrai qu'il y a eu une libération de la parole des femmes ces dernières années, hein, on l'a vraiment senti. Donc c'est frappant de voir qu'il n'y a pas égalité partout dans le monde.
Alors, pour la France, Anne Leni, mais aussi Justine Trier, et puis les dernières paroles d'Agnès Varda aussi, vous avez réussi à recueillir. Là aussi, c'est assez émouvant de voir Agnès Varda se livrer, se confier comme ça à vous, puisqu'elle qui a réalisé tellement de films, fait partie tellement de notre patrimoine cinématographique, que voilà, c'était chouette de pouvoir avoir Agnès Varda quand même.
Agnès Varda, en plus, ce qui est fou, c'est qu'elle est connue dans le monde entier. C'est ça la force du cinéma. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, elle est étudiée dans les universités. Elle a eu un Oscar d'honneur. Une des rares femmes, elles sont trois à avoir eu un Oscar d'honneur. Pourtant, les Oscars, voilà. Donc, on a du chemin, hein, avant que dans les Oscars, les réalisatrices soient. L'année dernière, il y avait une réalisatrice en sélection, en compétition aux Oscars. C'est. Voilà, ça prend du temps. Les mentalités, les choses sont en train de bouger, je crois vraiment. Alors c'est toujours plus facile dans le documentaire, il y a des plus petits budgets, le cinéma d'auteur, et puis après c'est plus compliqué dans l'animation, où c'est des gros budgets, voilà, l'animation qu'on connaît bien. Là on est à 12% de réalisatrices même en France, ça chute tout de suite évidemment.
En télé, ça augmente pas un petit peu quand même? Parce que j'ai l'impression, en tout cas, qu'en télévision, on voit de plus en plus de réalisatrices de talent qui émergent. Est-ce que c'est peut-être plus facile pour eux de faire leur trou à la télévision qu'au cinéma?
C'est pour ça que les chiffres, c'est toujours pas mal de revenir aux chiffres. Parce que quand on regarde les chiffres, finalement, non. Non, il n'y a pas plus de réalisatrices à la télévision. Alors moi, je disais, parce que les Allemandes qui ont un cinéma... Il y a moins de films de cinéma produits en Allemagne, mais par contre, il y a l'audiovisuel, c'est-à-dire la télévision allemande est très forte et très puissante, se battent pour les quotas. Elles veulent qu'à la télévision, soit obligé que les chaînes fassent gaffe et engagent plus de réalisatrices. Pourquoi pas en France, on pourrait arriver à ça. La question des quotas qui avant était totalement, les femmes disaient non, 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 aujourd'hui les hommes le proposent, disent que peut-être qu'il faut en passer par là. Il va peut-être falloir à un moment quand même qu'on change un peu les choses, parce que ça, il n'y a pas de raison non plus. Nous, c'est surtout les questions salariales et les études sur les salaires qu'on essaye de faire avec les chiffres. Il y a des histoires incroyables, par exemple, je sais pas si vous savez, mais le maquillage, coiffure. En général, sur un tournage, les maquilleuses et les coiffeuses, c'est beaucoup, majoritairement, elles sont 80% de filles. Elles sont moins bien payées que les hommes. C'est-à-dire que c'est là où on se rend compte de la complexité, c'est pas tout noir, tout blanc. C'est-à-dire qu'à la fois, les mecs, ils osent, quand ils sont engagés, dire « Ah non, non, mais est-ce que moi je peux être... » Quand on leur propose un salaire, ils disent « Ah non, mais moi je suis un artiste. » Et souvent les maquilleuses coiffeuses ou les femmes, quand on leur demande, on leur propose un job, elles acceptent les conditions sans même négocier. Elles se mettent pas en avant de la même manière. Donc c'est aussi un truc d'éducation des femmes. Il faut y aller, n'hésitez pas à négocier vos salaires comme les mecs. Et on s'est rendu compte de ça. Donc les qualités salariales, c'est hyper important, mais c'est pas toujours une volonté. On n'a pas décidé de payer moins bien les filles.
En tout cas, une chose est sûre, ce n'est pas un documentaire militant, mais vous allez apprendre plein de choses. Ça, c'est une certitude, vous allez apprendre plein de choses. Et dans des pays aussi variés, on peut imaginer par exemple qu'en Inde, évidemment, Bollywood, c'est vraiment très productif en matière de cinéma. Mais là aussi, on se rend compte dans votre documentaire que c'est pas si facile que ça pour les réalisatrices.
Ben non, partout. Mais c'est... Alors... On connaît peu hein, l'Inde et le système indien. Bon, la place de la femme en Inde, c'est quand même pas forcément facile. Mais ce qui est fou, et moi j'ai découvert, j'avais envie de montrer ce cinéma. C'est une grosse industrie, Bollywood. Hein. J'avais envie de montrer ce cinéma. C'est aussi une excuse pour montrer un peu ce qui se fait. Et ben, c'est les acteurs en Inde, c'est des demi-dieux, c'est des stars. Mais à côté, nous, c'est des foules énormes qui se déplacent dans la rue. Mais c'est des choses dingues, comme on pourrait pas imaginer. C'est des liesses. Et ces demi-dieux, donc ces acteurs, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est pas les financiers. Et ils se sont rendus compte qu'ils étaient quand même un peu mieux filmés par les filles.
Donc ça bouge.
Et donc, il y a des réalisatrices qui sont arrivées. Et c'est comme ça que les femmes dans le cinéma indien sont arrivées au démarrage. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'en Inde, c'est en train de changer aussi.
Vous avez fait un travail d'enquête hyper fouillé, mais malgré tout, quand vous êtes arrivée sur place, quand vous avez rencontré ces réalisatrices, est-ce que vous avez été surpris par certains de leurs propos à des moments donnés, même si vous connaissez quand même ce domaine-là?
Bah oui, il y a des choses très émouvantes, des moments. Moi, je sais que d'écouter Isabelle Coixet, qui est donc cette réalisatrice espagnole, qui parle d'Almodovar et qui dit que finalement Almodovar, c'est quand même une vision de la femme haute en couleur, mais un peu caricaturale. C'est pas forcément non plus. Voilà, c'est assez joli. Elle dit que elle, le cinéma. Eh ben, il est né grâce à Cléo de 5 à 7, à Agnès Varda, qu'elle a vu quand elle était toute, toute jeune, le franquisme. Donc, elle était née, dans une Espagne, quand même,
dictature quand même.
Voilà, sous la dictature, et que ça a été une ouverture. Elle dit, ah, mais c'est une femme qui a réalisé ça, sur une femme, un regard de femme qui tout à coup arrête d'être regardée, qui décide elle de regarder les autres et de plus être un objet. Je trouve que c'est une belle histoire et comme moi je suis arrivée au cinéma par Agnès Varda. C'était ma maman de cinéma, donc j'avais ça m'a beaucoup touchée de voir la Tunisienne aussi Kaoter qui raconte que c'est Carrie, c'est ce film alors qu'elle est dans un petit bled en Tunisie et qu'elle découvre au travers de Carrie une autre adolescente qui elle aussi a des règles, qui a aussi le même âge qu'elle et elle s'est complètement projetée dans ce film, c'est de Brian De Palma, c'est dingue et je trouve ça la magie du cinéma.
Vous apprendrez plein de choses, ne le ratez pas en tout cas. Le rendez-vous est pris, le documentaire sera diffusé demain soir sur Ciné+. Ça s'appelle Film Makers, un très beau documentaire réalisé par Julie Gaillet et Mathieu Busson, qu'on embrasse également. Merci infiniment Julie.
Merci beaucoup.
Et à très bientôt.
Ouais, à très bientôt.
Yeah. Bonjour.
Bonjour.
Hello. Hello. Nice to meet you.
Bueno, en español. Venga, de acuerdo. Vale, español. Muy bien.
Parfait. Excusez-moi, c'est la maquilleuse. La touche maquillage.
Ouais. Ok. Shall we talk about it? Are you on?
Ready.
Ok. So.
Pardon, en fait, je sais pas si ça a démarré ou pas, du coup. Ah oui, ça a démarré, pardon, du coup, je pensais qu'on parlait entre nous. C'était bien fait parce que j'ai complètement oublié.
Tu m'avais dit. Moi, j'ai pas trop souffert d'être une femme parce que finalement, j'ai un prénom. Que les gens croient que c'est un prénom d'homme.
Ça, c'est quand ils me voient pas.
Allez, après le prime événement de la semaine dernière, eh bien on continue à fêter les 15 ans de la série. Nous, on s'arrête plus. Hein. Non, ensuite, on écoute la télé avec 4 comédiens qui sont avec nous aujourd'hui de Plus belle la vie. Alors, on a les petits nouveaux qui sont jamais passés dans notre émission. Alors, je dis pas ça, petit nouveau pour Plus belle la vie, parce qu'Alexandre Fabre est avec nous. Oui, Monsieur Frémont. Bonjour, Alexandre.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être là. David Marchal également, bonjour.
Bonjour, je suis ravi de représenter la famille Baumel.
Exactement, merci d'être avec nous. Marie Henry qui est avec nous aussi, notre médecin en chef. Ça va Marie?
Eh oui, impeccable, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. On a vu, en tout cas mardi dernier, que tes talents de médecin avaient été mis à rude épreuve. Et puis Stéphane Hénon qui est avec nous également.
Oui, bonsoir. Comment ça va Alain?
Ça va très très bien, merci d'être avec nous également mon cher Stéphane. Très heureux de t'accueillir une nouvelle fois.
Je suis toujours ravi d'être là.
Mais je sais bien.
Après ce prime événement qui était formidable quand même, on peut le dire.
Il était exceptionnel. Je crois qu'il a fait frissonner énormément de téléspectateurs, je peux vous le dire, mardi dernier.
Ça a dû pleurer dans les chaumières.
Ouais, oui. Mais oui, c'est ça. Mais c'est ça, Plus belle la vie. C'est aussi, ça nous réserve des surprises. Alexandre, parce que c'est une première dans notre émission et que c'est quand même un des plus anciens de la série. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur ces 15 ans?
15 ans passés dans la série.
Mais ça marque quand même ces 15 ans de vie. Quand je me regarde dans le miroir du maquillage, je me dis, oh là là, le temps passe. Et là, ça s'est marqué. Et puis, en même temps, il y a plein de... Même techniquement, c'est incroyable. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Avant, on signait des autographes sur des cartes postales. Maintenant, on fait des selfies. En 15 ans, le téléphone portable, c'est... multiplié, vulgarisé, tout ça, et voilà, des choses se passent. Et puis il y a eu des concurrents, des imitateurs d'ailleurs aussi. Voilà.
En tout cas, moi j'ai une petite anecdote pour vous, Alexandre. Vous avez été celui qui m'a donné envie de regarder la série dès le départ. Et à partir du moment où j'ai commencé, je n'ai jamais pu m'arrêter. Alors, je vous explique pourquoi. Parce qu'on s'était rencontrés à Monaco, au festival du film de télévision. Je ne regardais pas Plus belle la vie. C'était en 2008, je me souviens. Et j'ai vu quelqu'un vous sauter dessus en disant « Vous êtes méchant, vous êtes quelqu'un d'infâme. » Enfin voilà, c'était le méchant Frémont, bien évidemment. Et je ne comprenais pas comment ça se faisait que les gens vous sautaient dessus comme ça, vous confondaient avec les personnages. J'ai dit « Il faut absolument que je regarde Plus belle la vie pour essayer de comprendre le phénomène. » Et à partir du moment où j'ai commencé, je n'ai jamais pu m'arrêter.
C'était surprenant au début parce que c'était le premier feuilleton quotidien vraiment incroyablement... présent, il y avait plus de 6 millions de téléspectateurs par jour, c'était incroyable. Et les gens n'avaient pas l'habitude de cette espèce de quotidienneté, du feuilleton quotidien, ils étaient dedans, en plein, quoi. Et ils étaient capables de confondre un peu fiction et réalité. Et puis ça leur plaisait surtout aussi de confondre, en prenant parti et tout ça. Et moi, je me régalais, évidemment, d'être méchant, mais méchant.
Oui, c'est ça qui est bien aussi, on s'en délecte. David, la famille Baumel, qui a fait son arrivée il n'y a pas très très longtemps. Et alors là, on a changé de femme, David ? Qu'est-ce qui se passe comme ça ?
Même pas du tout, pour l'instant. Je n'ai pas encore changé de femme. D'ailleurs, ma femme, qui est la mère de mes enfants, est toujours ma femme, officiellement. C'est ce qui est dit, d'ailleurs, dans les épisodes. Même si on est séparés depuis qu'elle nous a quittés il y a quelques longues années. Mais... Effectivement, elle est dans les parages en ce moment. Coralie a quelques doutes, j'ai l'impression.
Bon, en tout cas, voilà le personnage de Coralie qui a été repris par Coralie Audrey d'ailleurs. Comme ça, au moins, c'est plus facile. On se trompe plus de prénom.
Oh la main. Oh la main.
On a vu Coralie, depuis une quinzaine de jours à l'antenne. Ça fait quoi ? Faut reprendre ses marques un peu avec la comédienne. On essaie de retisser le lien qu'il pouvait y avoir avec Sarah.
Bien sûr, c'est pas anodin parce que ça faisait 2 ans qu'on jouait ensemble avec Sarah. On était en pleine intrigue en plus à ce moment-là. Faut se réhabituer, faut changer. Le changement apporte aussi de la nouveauté et des choses en plus. Et évidemment des choses qui sont compliquées. La première fois qu'on s'est retrouvé dans notre décor familial sans Sarah Mortensen, forcément c'était assez émouvant pour tout le monde. Et en même temps, on a essayé d'accueillir Coralie au mieux. Je crois que ça s'est bien passé.
Et puis la vérité éclate au grand jour et là, eh bien, on va dire que ça va mettre du rififi dans la famille Baumel.
Ça c'est sûr, il va y avoir du sang.
On va suivre ça avec intérêt. Alors Marie, je crois que oui, la semaine dernière, les talents de médecin ont été mis à rude épreuve lors de ce prime. Toi, quel regard tu portes sur ces 15 ans et quel est ton meilleur souvenir surtout ?
Ce prime a quand même été une superbe occasion de rencontrer Stéphane. Vraiment, ce sont mes meilleurs souvenirs, les meilleurs souvenirs que j'ai depuis que je suis arrivée. On a une vraie connivence et une vraie liberté de jeu quand on est ensemble et c'est très plaisant, très agréable. Donc voilà, je suis très contente de ça. Et puis voilà, mais après, moi je suis ravie, j'adore cette maison, je trouve que l'ambiance est toujours super et voilà, je trouve ça très émouvant que cette série perdure et que le public soit toujours aussi fidèle. Voilà.
C'est incroyable. Comment t'expliques ça, toi, Stéphane, que le public soit au rendez-vous malgré la multiplication des séries quotidiennes et qu'aujourd'hui, au contraire, ça n'a pas enlevé des téléspectateurs. Au contraire, tout le monde, maintenant, y trouve son appétit.
Il y a de la place pour tout le monde, hein. C'est ce qu'on a dit dès le départ.
Et la preuve, oui.
Ça crée de l'émulation, surtout, parce que plus il y a d'offres, plus il y a de demandes, et voilà, et c'est super.
Stéphane, et non, a changé de voix, hein, il faut voir.
J'adore prendre le micro à Stéphane.
En fait, elle joue toute seule aussi dans le prime, comme vous avez vu. En fait, c'est pas moi qui parle, c'est elle qui parle tout le temps. Elle se réplique.
Non, j'adore, voilà, parce que je trouve qu'en fait, c'est beaucoup plus intéressant tout ce que j'ai à raconter.
C'est vrai. Stéphane.
Je suis tout à fait d'accord avec
toi. Moi aussi, je suis d'accord avec moi.
Bon, ça fait combien de temps, toi, Stéphane, que t'es dans Plus belle maintenant, mine de rien ? T'as compté les années ou pas ?
Simplement 13 ans.
Tu te rends compte ? 13 ans ?
J'étais venu pour 3 mois et ça fait 13 ans que j'y suis. 13 ans que j'y suis, ouais. 13 ans que je fais le flic raciste. Je vais finir vieux flic raciste. C'est terrible quand même, non ?
Comme quoi un simple guest peut déboucher sur une histoire incroyable.
Ah oui, devenir le héros de cette série, quand même, c'est incroyable.
Marie, une réaction ?
Non, parce que je suis un peu l'héroïne de ce prime. Il faut bien mettre les choses dans leur contexte et que ça permet un peu de rafraîchir l'image de Boer.
Alors ce qui est bien, c'est qu'au moins, comme on passe après le prime, on a pu, les téléspectateurs vont pouvoir juger puisqu'ils l'ont vu maintenant.
Ils ont bien compris, ils vont bien comprendre quand même que j'ai pas si vieilli que ça, hein. Je ressemble toujours à ce que j'étais.
Bon, bah, je sens que le tournage du prime a dû être très très drôle entre eux, hein. Ça a pas dû être triste. Ouais, c'est ça. Bon, la famille Baumel, on va y revenir un petit peu quand même. Donc la vérité va éclater au grand jour. Ça va mettre un sacré bordel dans la famille.
Ah bah c'est un sacré bordel. Clément est complètement
dévasté.
Complètement dévasté, on peut le dire, déprimé, dévasté. On va voir un peu le dark Clément, quoi. Ouais, qu'on n'avait pas vu jusque-là. Donc c'est pas mal aussi parce que ça fait sortir d'autres choses.
Et juste avant de se quitter, Alexandre, est-ce qu'on va avoir encore affaire à quelques petites malversations dans les semaines qui viennent ou quelques petites affaires sombres?
Ça va arriver forcément parce que il peut pas s'en empêcher. Ce Frémont là, ça ne peut pas s'en empêcher, mais. Là, je pense qu'il a des problèmes de famille un peu et il a bien envie de se faire aimer de ses enfants. Mais bah, bon, après, des malversations, il va y en avoir. Il va y en avoir.
Je veux juste dire une dernière chose, c'est que le vrai héros de cette série, c'est quand même Frémont. C'est Frémont. C'est vrai, non mais il faut le dire, c'est Frémont, sa voix, son regard, c'est Frémont le héros de cette
série. Mais je te l'ai dit, c'est lui qui m'a donné envie de le regarder, voilà. Tu vois, la preuve. Bon, en tout cas, merci d'avoir été tous les quatre avec nous pour continuer à fêter ces 15 ans de la série. Moi, je suis très fier de vous avoir et de suivre cette série avec vous. Et puis, je vous dis à très très bientôt.
À très bientôt, Alain.
À très bientôt, Alain, merci beaucoup.
Bye bye, au revoir.
Merci beaucoup, Alain, à très bientôt.
Et n'oubliez pas que les 5 épisodes de la semaine de Plus belle la vie, c'est demain, 21h05, sur France 3, à cause des championnats du monde d'athlétisme. Tout de suite, extrait.
T'as regardé dans le téléphone de Théo?
Même si Théo a des photos de moi dans son téléphone, qu'est-ce que ça prouve?
À part qu'on vit sous le même toit.
Mais ça prouve que tu l'utilises, que tu le manipules. Allez, vas-y, dis la vérité un petit peu.
La vérité? La vérité, elle est là, dans ma main, la vérité. Voilà comment elle prend son traitement.
Mais rends-moi ça, rends-moi ça, putain!
Arrête!
Comme tu dis, y a pas de hasard dans la vie. Hein? C'est tombé de son sac à main tout à l'heure.
T'as peut-être réussi à manipuler un gamin de 17 ans, mais elle te laissait plus jamais avec moi.
C'était pas de la manipulation.
Ah ouais, c'était quoi alors? Hein, c'était quoi? Moi, je me sentais en sécurité avec toi, je t'ai confié mes enfants. T'étais comme une mère pour eux.
Oh, arrête, tu mélanges tout.
Écoute, tu sais quoi, tu dégages. Tu dégages, je veux plus te voir. Tu prends tes affaires là, et hop, tu balais. Allez, dégage. Oh, tu comprends ce que ça veut dire, tu dégages. Dégage. Lâche.
Allez, après Frédéric Berthe et Clément Rémien sa semaine dernière, on va continuer à parler de la série Pour Sarah qui sera diffusée jeudi sur TF1 avec Hélène Ducourant qui est avec nous, l'héroïne de cette histoire. Bonjour Eden.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors Eden, le rôle titre pour le coup de cette série, on a vu les deux premiers épisodes, hein, c'est une plongée un peu dans les affres de l'adolescence et cet accident qui paraît être un accident, mais les choses ne sont peut-être pas aussi simples que ça. Et c'est en tout cas tout le sujet de l'enquête qui est menée par le personnage de Ratika tout au long de cette histoire. Première question que j'ai envie de te poser, comment t'es arrivée dans cette aventure et comment t'es réagi quand tu as su que tu avais le rôle titre quand même?
Alors d'abord, merci à vous. C'est un plaisir de répondre à vos questions. Alors, comment j'ai été choisie? Alors, c'est une voie classique. J'ai passé un casting, donc via mon agent. J'ai fait un premier casting qui s'est bien passé et après j'ai eu un callback avec le réalisateur et la directrice de casting.
Qu'est-ce qui a fait la différence pour toi?
C'est dur de répondre à ça, faudrait demander à Frédéric. Je sais que comme c'est une adaptation, donc la série originale existe au Québec, je pense qu'ils avaient aussi ce personnage de Sarah québécois et que d'après ce que j'ai compris des productrices, je dégageais une certaine énergie qui était assez similaire du personnage original. Donc peut-être cet aspect-là. Et après, je sais pas ce qui a fait la différence, peut-être qu'ils ont pu percevoir mon envie indescriptible de faire ce rôle.
Quel est ton parcours pour ceux qui se disent « Tiens, je l'ai vu avant dans autre chose, mais alors dans quoi ?»
Alors, mon parcours, ça commence avec Braco sur Canal+, en 2011-2012, donc ça remonte un petit peu. Et après, bon, ce qui va parler aux gens, le long-métrage Bis de Dominique Farrugia, avec Franck Dubosc et Cadmerad, puis Les Ombres Rouges sur C8, l'année dernière.
Je jouais la petite sœur, la dernière de la famille.
Exactement, je jouais la petite dernière.
Exactement. Alors ça, c'est une belle aventure aussi, Les Ombres Rouges, parce que t'avais un sacré rôle. T'as même écrasé quelqu'un, je crois bien, avec une voiture, hein, que tu devais pas conduire.
Ouais, j'ai fait, ouais, ça, c'était pas une très bonne idée.
C'était pas une bonne idée. Décidément, faut pas te confier de voiture.
C'est ça.
Bon, en tout cas, c'est une belle aventure. Quel est ton plus beau souvenir de tournage, Jean pour Sarah?
Bah, déjà, toutes mes scènes avec ma mère, Audrey Dana. Elle s'était tellement forte dans le ressenti émotionnellement que j'en garde vraiment un souvenir très, très, très ancré en moi. Après, je sais pas, tout était dingue sur ce tournage. Après, une image, je dirais, c'est mon dernier jour de tournage. Donc, c'était 3 mois, c'était très intense. Et évidemment, les fins de tournage, c'est toujours très émouvant. Et je me souviens, voilà, toute l'équipe en face qui voilà, on annonce une fin de tournage, on applaudit et là j'ai levé le poing en l'air et j'ai crié on l'a fait. Parce que voilà, c'était un projet très ambitieux et puis voilà, on a gravi cette montagne tous ensemble. C'est un travail d'équipe et j'ai et ce sentiment que j'avais, c'est on est allé au bout et je suis fière de nous.
Alors, entre deux scènes, t'avais quand même un gagnant de Danse avec les Stars et t'as appris quelques pas de danse sur le tournage ou pas, Clément?
Non, pas tant que ça. Oh, on a fait sur la plage, on a fait quelques petits pas de danse de salsa. Mais non, on n'a pas tant dansé que ça. Voilà.
À développer.
À développer, c'est ça.
Mais en tout cas, c'est une belle aventure qui t'attend. On a encore 4 épisodes à voir. Donc, il y a plein de choses encore à découvrir. La semaine prochaine, c'est Caroline Anglade qui viendra nous présenter le rôle de Anne. Tes projets pour la suite, Eden?
Alors, mes projets, je tourne dans le prochain film d'Audrey Dana, qui joue ma maman dans la série, qui s'appelle Homme au bord de la crise de nerfs. Et j'ai un projet de mise en scène au théâtre pour le Festival d'Avignon l'année prochaine.
C'est le fait d'avoir tourné ensemble qui lui a donné envie de te prendre pour son prochain film, Audrey, ou c'était fait avant?
Complètement, parce qu'on se connaissait pas. Avec Audrey, on s'est vraiment découvert sur ce tournage. Et après le film, voilà, elle commençait la prépa de son film à elle. Et elle m'a dit, voilà, j'ai ce rôle-là, j'aimerais beaucoup que tu lises. Et ça m'a énormément touchée. J'ai trouvé ça très, très généreux de sa part. Et donc, je fais partie de l'aventure.
Est-ce que tu as vu la version québécoise pour le coup? Est-ce que tu n'as pas voulu la voir pour ne pas t'inspirer et justement pouvoir mettre ta patte à toi, quoi, finalement?
Je me suis posé la question. Mais j'ai fait le choix de ne pas la regarder. Pas la regarder parce que j'avais peur de vouloir imiter ou d'être influencée. Et puis moi, voilà, en tant qu'actrice, j'ai envie de créer, j'ai envie d'arriver sur un plateau et qu'on crée ensemble. Donc je me suis dit, ok, pourquoi pas la regarder après, a posteriori, et me dire, génial, on a fait les mêmes choix. On a fait le même choix artistique, on est parti dans la même direction de jeu. Donc peut-être après, et puis j'avais pas envie d'être frustrée aussi, de me dire, ah, elle a fait comme ça, moi j'arrive pas à le faire comme ça, je l'aurais plutôt fait comme ça. Voilà, j'avais envie de créer ma Sarah, en fait, enfin notre Sarah.
En tout cas, c'est réussi, moi je vous le dis. Une petite suite aux Ombres Rouges, c'est prévu ou pas? Est-ce que t'en as entendu parler ou pour l'instant c'est pas d'actualité?
Pour l'instant, c'est pas d'actualité.
Ça reviendra peut-être, on sait pas. Une lubie de Cyril Hanouna et ça y est, ça repart.
On peut dire ça comme ça.
Merci à toi Eden, en tout cas on te retrouve dans Pour Sarah, et bien ça sera jeudi à 21h05 sur TF1 épisode 3 et 4. Merci à toi.
Vous savez ce qui s'est passé?
On sait pas qui conduisait, ils ont été projetés hors du véhicule.
J'ai pris un avocat. Et d'où tu me parles d'avocat là? Nos gosses? Ma fille dans le coma, putain. Si le conducteur de l'autre voiture a pris la fuite, c'est forcément lui le responsable.
Si c'est pas juste un accident, je veux savoir de quoi il en retourne. D'après vous, qui est responsable de ça?
Événement. Pour Sarah, votre nouvelle série inédite. Bientôt sur TF1.
Et on revient dans un instant, dans 3 minutes, notre spécial cinéma J'irai où tu iras, le film de Géraldine Nakache. Et Géraldine sera justement avec nous, accompagnée de Leïla Bekti. Un rendez-vous à ne pas manquer dans 3 minutes. À tout de suite dans Chute, on écoute la télé.
Bouge pas, Chute, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Chute, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, coup de cœur cinéma consacré au film J'irai où tu iras qui sort mercredi dans les salles. Et je suis un grand chanceux aujourd'hui puisque, eh bien, j'ai la chance d'avoir avec nous Géraldine Nakache et Leïla Bekti qui sont là. Merci à toutes les deux d'être avec nous.
Bah, merci à vous.
Merci beaucoup.
Alors moi je suis très heureux de vous avoir parce que voilà, moi je suis fan, Géraldine, tu le sais, de tes films, on te suit depuis Tout ce qui brille. Il y a eu New York, il y a eu tellement de choses, et là quel plaisir de vous retrouver toutes les deux à l'écran et que tu reposes à nouveau ta caméra sur Leïla. Je pense que le tournage a dû quand même bien se passer toutes les deux.
C'est vrai qu'on avait tellement hâte de se retrouver que on n'a pas boudé notre plaisir et on a mesuré la chance qu'on avait de se retrouver 10 ans après Tout ce qui brille. On était ravis, on était vraiment ravis.
Alors c'est une belle aventure toutes les deux parce que il est vrai qu'il y a l'amitié d'un côté qui transpire à l'écran, c'est juste hallucinant. Et puis c'est peut-être plus facile justement de jouer un peu l'antipathie entre les deux sœurs dès le début du film.
C'est exactement ça et c'est très vrai ce que vous dites. Effectivement, je crois qu'on s'autorise plus de choses parce qu'on est très proches dans la vie et puis il y a rien de plus jouissif que de pouvoir interpréter des personnages éloignés de ce qu'on est dans la vie. Et c'est vrai que Géraldine, elle n'y a pas les deux mains mortes pour les rôles de composition entre elle et moi. Vous verrez dans le film, je suis un peu antipathique, je ne le suis pas dans la vie. Géraldine est un peu... Elle est vraiment dans la fantaisie, on va dire.
Et ça dure pas dans le film non plus, Leïla, hein, je te rassure. Oui.
Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai que c'était un plaisir énorme. Moi, j'aime la partenaire qu'elle est, j'aime la réalisatrice qu'elle est. L'idée qu'elle pose son regard sur moi, sur mon jeu, c'est quelque chose que j'aime et qui me galvanise. Donc j'avais hâte de la retrouver.
Qui a eu l'idée de cette histoire? C'est toi, Géraldine?
Oui, j'avais encore besoin de parler de la famille, des relations entre les parents, quels qu'ils soient, et puis de parler d'incommunicabilité aussi. C'était ça, la genèse du projet.
Alors le film démarre, c'est vraiment deux sœurs qui ne s'entendent pas. Hein, c'est vraiment les deux opposées au niveau caractère et qui vont devoir composer avec la maladie dévoilée de leur papa. C'est une belle aventure qui a été écrite. T'as tout écrit ou comment tu t'es entourée? Comment tu l'as préparé ce film?
Alors déjà, je me suis entourée d'un producteur formidable qui m'a pas lâchée pendant ces plus de 3 ans d'écriture. Et puis à certains moments, justement, il a cru bon et il a eu raison qu'il fallait, pour pas que je sois seule dans cette écriture, me mettre ce qu'on appelle des consultants, des gens qui ici et là viennent lire mon travail et me font accoucher de certaines choses. Et puis surtout, j'avais les yeux de Leïla qui, à chaque étape du film, m'a permis d'avoir un retour, une sorte de miroir. Et c'était un cadeau, ça.
Patrick Timsit, c'était évident pour toi, Géraldine?
Ah oui, vraiment, c'était évident. Parce qu'on lui connaît tous sa grâce et son humour, mais j'avais décelé, comme bon nombre d'entre nous, je pense, chez lui et dans son regard, une sorte de grande tristesse, une grande pudeur aussi. Et il l'a vraiment mise au service du rôle, donc j'étais ravie.
Alors moi, j'ai pu voir le film un petit peu avant tout le monde, j'ai été un chanceux. Et pendant les débats, il y a Patrick Timsit qui a lâché quand même une petite bombe en disant que le soir... Mais vous passiez 2 heures au téléphone pour débriefer la journée. Est-ce que ça, c'est vrai?
Mais oui, c'est vrai. Mais parce que finalement, quand on travaille ensemble, Leïla et moi, ça change pas de quand on vit ensemble, si j'ose dire. Parce que nous, on s'est pas lâchés depuis Tout ce qui brille. Et c'est vrai que sur le tournage, on travaillait. C'était beaucoup, beaucoup de travail. Donc, il y avait évidemment pas forcément la place pour l'intime. Et puis, parfois, le soir, on s'appelait pour débriefer. Ça peut paraître un peu idiot. C'est ça, le truc des sœurs aussi, non?
Exactement. Que ça fait du bien en tout cas de vous revoir toutes les deux à l'écran comme ça. On va écouter la bande-annonce tout de suite et on revient juste après.
Jour J, demain, c'est fini les mariages. Là, on passe au stade supérieur, ma fille.
Allez, papa, à demain.
Je peux pas t'accompagner demain.
Moi, j'y vais pas sans toi, papa.
Dernier jour?
J'aimerais bien que t'accompagnes ta soeur demain à son rendez-vous.
Ok.
Ah, merci, ma fille.
Évidemment que non. On habite dans la même ville, ça fait au moins 1 an qu'on s'est pas vu.
Quand on déjeune 1 heure toutes les deux, on a rien à se dire. Et là, tu nous demandes de faire 4 heures de route ensemble.
C'est le dernier tour des auditions pour les choristes francophones de Céline.
Oh, me dis pas que tu dis Céline pour Céline Dion.
Je vais pas dire Pascal, elle s'appelle Céline. Bonjour, ma fille.
Ça va? Salut.
Ça fait plaisir, hein?
Ouais. Qu'est-ce qu'il y a?
Rien. Rien.
Bon, on y va alors.
J'irai où tu iras, c'est le film qu'il ne faut pas rater. C'est le premier film d'octobre que je vous conseille, moi, bien évidemment. Leïla, quel est ton meilleur souvenir de tournage?
Je crois que ça reste le premier jour. Comme le disait Géraldine tout à l'heure, on n'a vraiment pas boudé notre plaisir. Je pense qu'on était consciente de la chance qu'on avait de pouvoir refaire un film ensemble. Et c'était assez émouvant. Alors, je savais que j'étais heureuse de la retrouver, mais je pensais pas que l'émotion allait être si grande. Et je me souviens qu'à la fin de la journée, on s'est regardées toutes les deux. Et sans même se le dire, on savait ce qui se passait dans la tête de chacune, quoi. Et j'étais très très émue de ce premier jour de tournage.
On a toujours l'impression, Géraldine, dans tes films, il y a vraiment un côté familial, film de potes ensemble. Tu as besoin de t'entourer de personnes que tu connais, hein, je crois vraiment dans tes réalisations. Alors, moi, j'ai vu le petit clin d'œil à Brian Marciano qu'on avait reçu pour la série 25 que tu as fait avec lui, d'ailleurs, et qu'on aperçoit furtivement sur 2-3 scènes.
Oui, c'est vrai, c'est important pour moi d'avoir sur le plateau des gens, des acteurs, des techniciens aussi, des gens qui avec qui je partage peut-être plus que du cinéma. Après, évidemment, tout ça, c'est au profit du travail et il n'est pas question de faire travailler des amis juste pour les faire travailler. C'est aussi parce que j'ai de la chance d'avoir plein de gens dans mon entourage qui ont beaucoup de talent. Donc ça, c'est ma chance et je les utilise.
Travailler en confiance.
Ah oui, ça c'est essentiel, vous avez raison, la confiance c'est vraiment essentiel.
Alors il y a plein d'autres choses qui se préparent pour la suite, est-ce que maintenant que le film va partir au public dans 2 jours, est-ce que vous avez déjà envie de refaire quelque chose toutes les deux?
Ah oui, j'aimerais bien, l'envie de toutes les façons, elle est toujours jamais loin de ma tête et de mon cœur. Après il faut du travail, donc il faut s'y remettre.
Eh bien, écoutez, on vous souhaite en tout cas plein de bon courage. La plus belle scène que vous avez partagée toutes les deux, Leïla, ou qui était la plus dure à mettre en boîte peut-être à cause d'un fou rire?
La scène de dispute, je trouve qu'elle a... Géraldine, elle a ce talent de pas les répéter, de pas par rapport aux 2 films qu'on avait fait avant.
Dans la maison Airbnb, hein, c'est ça, cette scène-là.
Ouais, cette scène-là, elle a été émotionnellement et même au niveau du jeu, il y avait un truc où on est rentré dans une sorte une sorte de démence où Géraldine, c'est la seule fois où elle a refusé d'aller au combo, c'est-à-dire le retour vidéo, parce qu'elle réalise quand même le film. Elle est restée avec moi. On est rentré dans un truc où on s'arrêtait pas. Elle avait même pas le temps de dire couper, qu'on réenchaînait. Il y a eu un truc comme ça de, et c'était assez fort ce qui s'est passé à ce moment-là. Ouais.
Et là, Géraldine, au moment de la mise en scène, est-ce qu'on arrive à garder son sérieux quand tu chantes et que Leïla te regarde de façon complètement hallucinante, cette séance de chant en voiture?
Bah justement, c'est difficile de garder son sérieux, mais pour cette séquence-là, effectivement, c'est une séquence en voiture où on a eu un problème d'intempérie, donc on avait très peu de temps pour la faire. Donc ça a minimisé tous les fous rires. De toute façon, on n'avait pas le choix, donc il fallait y aller, il fallait la sortir, cette séquence.
Bon, et on va passer un bon moment, moi je vous le dis. Alors il y a plein de moments de rire, il y a plein de moments d'émotion aussi, donc c'est le savant mélange, comme tu sais si bien le faire dans tes films, en tout cas, ça c'est une certitude. Merci à toutes les deux d'être passées nous voir.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Puis on se dit à la prochaine, tu sais qu'on est là pour soutenir tous tes films à chaque fois.
Ouais, c'est vrai, fidèle, merci beaucoup.
Ah, tu m'as même décerné le titre de meilleur intervieweur de France à l'Alpe d'Huez, je me souviens, hein, tu sais que c'est resté.
Ouais, bah c'est resté aussi de mon côté, quand je te vois, je suis toujours contente.
Bon, merci à toutes les deux et à très vite.
Merci beaucoup.
Hey ! C'est des impulsions.
Hey !
Ouh, t'es fatiguée.
On a 4 heures de route, on va pas se parler pendant 4 heures. Si ?
C'est bizarre de vouloir être choriste.
Vouloir être derrière quelqu'un qui fait le même métier que toi, caché dans le noir, je trouve ça hyper étrange en fait.
Franchement, arrête Mina, on dirait que je te dérange. Je te pose des questions, tu me réponds que par oui ou par non.
C'est toi qui as le cœur fermé à triple tour.
Ça pourrait être les paroles d'une chanson de Céline Dion.
Vous vivez dans quel monde, papa et toi?
Encore papa? Quoi, papa? C'est quoi le problème avec
le
papa?
Le problème, c'est que je veux pas être comme vous, moi. Moi, je veux pas mentir. Je veux pas à vouloir vous protéger.
Il est malade. Il est malade, papa. Et nous, on est là.
Il voulait pas que tu saches. Je fais quoi, moi, avec ça? Je fais quoi?
C'est mes filles, ça.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On va avoir l'immense honneur de se retrouver bien lundi prochain sur votre radio et bien avec un sommaire plus que rempli puisque nous aurons la chance d'avoir deux équipes de films. Nous recevrons d'abord Nicolas Vanier pour son très beau film « Donne-moi des ailes ». Et nous aurons également la chance d'avoir toute l'équipe du film « Papicha ». Ces deux films sortiront le 9 octobre au cinéma et ça sera bien sûr dans Chute, on écoute la télé. Que ça se passe. Nous recevrons également Luna Carpio qui sera à l'affiche du téléfilm « Connexion intime » sur France 2. Fred Bianconi également à l'affiche de Ainsi Grand Soleil dans le rôle de Virgile. Caroline Anglade qui viendra nous parler de son rôle dans Pour Sarah pour le final de la série. Et Véronique Genest qui sera notre invitée exceptionnelle pour la sortie de son livre Mes arrêts sur image. Vous l'avez compris, encore une hebdo à ne pas rater.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé.
Sans oublier nos applications sur iPhone et Android, Chute, on écoute la télé. Sur ce, je vous retrouve demain à partir de 11h15 et 18h15 pour les quotidiennes sur VFM Radio. Pour la grande hebdo, on se retrouve lundi prochain à 18h avec le plein d'invités. Sur ce, je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de nos programmes. À demain.
Chut, on écoute la télé avec Réal Chocolat, votre artisan chocolatier. Chocolat sous toutes ses formes et pour tous les goûts. Guimauve, nougat, la fameuse pâte de fruits et les nombreux coffrets gourmands à découvrir dans votre boutique à Beauvais, près d'Agen. Zone La Motte Maniaque et sur réal-chocolat.com. Réal Chocolat fait naître la gourmandise.
Chut, on écoute la télé avec les pâtes à tartiner fabriquées dans le sud-ouest par Lucien Georgelin. Vos points de vente en Lot-et-Garonne sur lucien-georgelin.com.